Alors en ce jour de Pentecôte, eh bien je vais vous lire bien entendu dans le livre des Actes des Apôtres, donc le début du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez vraiment une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et au verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout d'un coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues qui semblaient comme de feu, et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes sortes de nations sous le ciel. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut toute confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors avec cette histoire de langue confondue, de langue multiple, ça m'a donné envie de lire ce qui est en fait assez classique, le récit de la tour de Babel, de la ville et de la tour de Babel. Effectivement, depuis des milliers d'années, les commentateurs ont vu un rapprochement, une citation de cette histoire de Babel dans le récit de la Pentecôte. Donc c'est au chapitre 11 de la Genèse, les 9 premiers versets. Toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au four. » La brique leur servit de pierre et le goudron leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et puis une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. » afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. L'Éternel dit, « Voici un seul peuple. Ils parlent tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons. » Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire confusion, car c'est là que l'Éternel confondit le langage sur toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur la surface de la terre. Enfin, je voudrais vous lire dans le livre de Deutéronome le récit de Moïse qui reçoit donc la parole dans le feu. C'est une autre, finalement, citation que fait le récit de la Pentecôte avec cette histoire de feu. C'est au chapitre 5 du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et lui dit « Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. » apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance sur le mont Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, mais c'est avec nous, nous-mêmes, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer ce que disait l'Éternel. Car vous aviez eu peur du feu et vous n'étiez pas monté sur la montagne. Et Dieu dit, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ensuite Moïse poursuit en disant donc les 10 paroles. Ô Éternel, vraiment, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Alors pour laisser le temps de méditer finalement ces récits anciens, ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, eh bien nos catéchumènes nous proposent de chanter le cantique 103 dans le petit recueil « Louanges et prières » d'un arbre séculaire pour s'ouvrir, voilà, à ces racines anciennes qui nous sont données et à ce Christ, voilà, qui change tout. Cantique 103. Ô Éternel, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Aide-nous afin que dans ce témoignage que nous avons lu dans la Bible, nous puissions chacun, chacune, découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et un amour vrai qui animera notre cœur, nos paroles et nos actes. Pour comprendre une langue, normalement, il faut connaître au moins la plupart des mots de cette langue, et puis un peu de syntaxe aussi, comment ces mots s'organisent. Alors la Bible utilise la langue hébraïque pour la première partie, la langue grecque pour la seconde. Heureusement que ces textes ont été traduits en français, cela nous aide, même si bien entendu il n'y a pas de traduction parfaite. Mais cela ne suffit pas pour comprendre la Bible, car un récit comme celui de Pentecôte n'est pas seulement composé de mots grecs, il est aussi composé de citations d'autres récits bibliques. Et comme pour comprendre une langue, il faut connaître les mots de la grammaire grecque, eh bien, les mots et la grammaire grecque, pour comprendre un texte biblique, cela aide de connaître les textes qui sont cités et voir comment ils s'articulent, et donc ce que le texte peut nous dire. En ce qui concerne ce récit du livre des Actes des Apôtres, depuis des millénaires, les lecteurs ont remarqué sa grande proximité avec au moins deux récits de la Torah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. L'histoire de la tour de Babel, et puis l'histoire de Moïse recevant la parole de Dieu comme dans du feu. Donc dans ce récit de Pentecôte, ces histoires sont un peu comme des mots qui s'assemblent dans une phrase pour nous dire le salut de Dieu, le salut que Dieu nous donne en Christ, et puis de voir comment est-ce que ce salut qui vient en nous, eh bien, vient accomplir finalement la Torah, les Écritures. D'où l'importance de connaître la Bible pour lire la Bible. Ce n'est qu'à partir de la deuxième lecture, finalement personnelle, de la Bible que l'on peut commencer à saisir de quoi parle le texte biblique, y reconnaître les allusions et de dire « Ah ben oui, c'est de ça dont il parle ». C'est pourquoi nous remettons une vraie Bible d'adulte aux tout jeunes enfants commençant leur catéchisme à l'oratoire, alors qu'ils savent à peine lire. Et c'est pourquoi nous avons été exigeants pour vous, catéchumènes, au cours de votre cursus ici, à l'oratoire, pour lire et pour approfondir la Bible, pour réfléchir, pour discuter. Alors, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais c'est pour vous libérer de ceux qui voudraient penser à votre place. Cela vous donne une grande force intérieure pour ne pas vous laisser embobiner par la première secte venue, ou bien par les fondamentalistes qui sont champions pour dégainer un verset hors contexte, pour imposer leur point de vue aux autres. Au contraire, cette ouverture à la profondeur du sens du texte biblique, elle est utile pour que vous puissiez développer votre propre théologie, mais aussi pour vous interroger à nouveau frais sur l'état du monde et la part que vous aimeriez lui apporter. Alors le premier texte auquel fait référence le récit de la Pentecôte dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Babel qui est tout à fait parallèle avec notre récit de Pentecôte. Babel commence avec une humanité qui est rassemblée dans une ville avec une seule langue, un seul et même grand projet. Dans les Actes, les disciples de Jésus sont rassemblés, nous l'avons vu, dans une seule même chambre haute, tous d'un commun accord, unis dans la prière, nous dit les Actes. Alors l'humanité de Babel ainsi que les disciples de Jésus ici se renferment sur leur petite communauté, bien soudée, bien confortable, parce qu'ils ont peur de l'extérieur. Ils se protègent du chaos du monde en se serrant les coudes, ce qui est une bonne idée, dans un endroit clos, mais surtout dans une unité de pensée et de prière. Le rempart est physique, la muraille de la ville et puis les murs de la chambre haute. Mais ils ont aussi dressé des murs idéologiques, théologiques, spirituels qui leur permettent de se sentir finalement bien confortables et à l'abri du chaos dans une pensée unique. Ils sont une seule âme, nous disent ces textes, un seul même projet. Ils parlent une même langue jusqu'à leur prière qui est commune. À Babel, comme dans le récit des Actes des Apôtres, Dieu se révèle à eux en personne et il en ressort une grande confusion. C'est le même mot, synkeo, qui est employé dans les Actes et dans la Genèse pour parler de la conséquence de l'action de Dieu, la confusion, le brouillage. Alors pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Rien ne dit dans l'un ou l'autre texte que ce serait une punition de Dieu parce qu'ils auraient mal agi avant. Au contraire, Dieu les sauve, évidemment, car il est comme ça en réalité, toujours sauvant et jamais écrasant, jamais donnant du mal et de la peine. Et l'action directe de Dieu n'est pas une punition pour ce qu'ils auraient fait, mais c'est une libération de leur enfermement. L'intervention de Dieu leur permet de passer à l'étape suivante, celle de la diversité. Au lieu de tous parler une langue unique, dans un lieu unique, avec un projet unique, une prière unique, après l'action de Dieu, chacun parle sa propre langue et ils sont envoyés par Dieu aux quatre coins du monde, de ce monde qu'ils craignaient. Mais il y a quand même une différence entre ce récit de Babel et le récit des Actes. Dans le récit des Actes des apôtres, chacun effectivement s'exprime dans sa propre langue, dans une multiplicité, mais les autres comprennent la langue maternelle de chacun, comme si c'était la leur finalement. Alors qu'à Babel, l'intervention de Dieu sonne la fin de la langue et de la pensée unique, chacun parle sa propre langue et les autres ne comprennent plus rien. Donc dans les deux récits, Dieu fait passer de l'unité à la diversité, mais à la Pentecôte, le miracle, c'est que malgré cette diversité, les gens se comprennent, il y a à la fois diversité et communion. La Pentecôte, c'est donc la suite de Babel, c'est son aboutissement, son accomplissement. L'auteur des Actes lit donc positivement le projet des humains, donc avec la ville et avec la tour de Babel. Cela veut dire que l'humanité, voilà, a compris que c'est une bonne idée de s'entendre ensemble, d'avoir un projet commun, comme le font les habitants d'une ville, de mettre en commun les réseaux d'électricité, d'eau, de transport. Et puis au cœur de cette communauté, voilà cette tour qui s'élève vers le ciel et relue par les Actes des apôtres, donc comme une prière commune lancée vers Dieu dans l'attente de ce qui va venir de lui. Et donc cette unité, c'est comme une première étape, nous dit le livre des Actes. C'est une bonne préparation permettant à Dieu de les ouvrir à une étape plus belle et plus élevée qui est celle de la diversité. L'unité est une bonne chose, mais juste temporairement, finalement. C'est la diversité que Dieu aime. Mais en réalité, ce récit de Babel est quand même un peu une énigme. Il peut être lu positivement, comme le fait Luc, ce qui est en fait une lecture plus rare de ce texte biblique. Beaucoup pensent qu'il doit être lu négativement, avec cette horreur qu'est la pensée unique imposée à chacun, comme dans les pires dictatures, finalement, où ceux qui pensent différemment sont éliminés. Ne rigolez pas, c'est vite fait que ça tourne à ça dans une église, ou dans un parti politique, ou dans une famille. Il y aurait aussi la folie d'orgueil de vouloir s'élever au ciel pour être Dieu à la place de Dieu, Dieu sans se passant de Dieu, finalement. Cela existe dans toutes les entreprises, tous les groupes, même dans l'Église. Cette interprétation négative de l'humanité de Babel n'est pas impossible. Effectivement, Dieu interviendrait alors, non pas pour les punir quand même, mais pour guérir de cette pensée unique et de cet orgueil. Et puisqu'au moins deux interprétations possibles peuvent être faites de ce texte, eh bien, cela nous pose une question intéressante pour notre propre façon d'interpréter la Bible, mais aussi notre propre façon de vivre et d'espérer. Un même projet que nous faisons, ça peut être une chose positive ou une chose négative. Ça peut être un beau projet commun ou bien ça peut être une tyrannie qui impose aux autres de ne pas avoir leur propre projet. C'est si vite fait de passer de la communauté à la tyrannie. Est-ce que notre but quand on a un projet, va réellement dans le sens d'une élévation ou est-ce qu'au contraire, ça va dans le sens de l'orgueil? C'est vite fait de passer de l'un à l'autre. Par exemple, de sacraliser notre doctrine quand on a bien avancé dans la théologie ou bien de sacraliser nos pratiques quand on a trouvé un bon truc, de dire ça sera le bon truc pour toujours et pour tout le monde. De sacraliser nos lois, notre drapeau, notre chapelle, et de se prendre ainsi un peu pour Dieu, ce qui n'est pas génial. Peut-être encore, nous dit Babel, que dans notre refus du mal et du chaos qui existent effectivement aussi dans ce monde, il n'y a pas que des belles choses, eh bien nous nous sommes renfermés comme dans une tour d'ivoire, laissant crever ceux du dehors et puis faisant étouffer ceux du dedans. Le texte biblique, dans sa diversité des interprétations possibles, est un miroir très utile pour nous découvrir nous-mêmes. La Bible est un miroir. Et la Bible est aussi des portes vers la vie, de multiples portes qui nous sont ainsi, que la Bible nous fait découvrir. Babel pose la question de savoir comment réagir face au chaos du monde. Alors il y a déjà un très grand projet dans Babel par rapport aux épisodes précédents de la Genèse, l'assassinat d'Abel par Caïn avec la jalousie, la violence de l'humanité au temps de Noé. Babel apporte une autre réponse que celle de la violence face au chaos. Cette réponse, c'est la communauté. Comme le dit Martin Luther King, il nous reste encore ce choix à faire aujourd'hui. Coexistence non violente ou co-annihilation violente. Ce pourrait être, nous dit-il, pour l'humanité, sa dernière chance de choisir entre chaos et communauté. Pour cette maison commune qu'est le monde, nous dit-il. Alors avec Babel, la Genèse nous ouvre une porte. Dans notre peur face au chaos du monde, nous pouvons choisir la communauté. Mais quelle communauté ? Comme Babel, nous pensons d'abord nous réunir, faire une commission, se mettre d'accord sur le projet commun, puis puiser dans cette union une force, une élévation. Puis dans un deuxième temps, s'ouvrir, étendre cette bonne disposition au monde, être comme un levain mélangé à la pâte à pain qu'est le monde. Le récit de la Pentecôte va plus loin. Il ouvre une autre porte, celle de la diversité et de la communion. La diversité seule, c'est aussi une sorte de chaos. La communion dans l'unité, c'est un étouffement, c'est une tyrannie, une négation de la personnalité de chacun, de l'individu. Donc l'une comme l'autre, la diversité, la communion, seule et séparée du reste, est contraire à la volonté de Dieu. Ce que crée l'Esprit à la Pentecôte, c'est la diversité et la communion, les deux ensemble. Et c'est là que la deuxième importante citation que nous donne le récit de Pentecôte est essentielle. L'Esprit de Dieu se sépare en autant de petites flammes qu'il y a de personnes dans la communauté qui est assemblée dans la chambre haute, en prière. Ce feu est donné individuellement à chaque personne présente, sans distinction entre le savant et le plus humble des hommes ou des femmes présents. Eh bien, ce récit fait de chacune et chacun un Moïse. Alors que dans l'histoire de Moïse, nous l'avons entendu, le peuple avait eu peur du feu. Et seul le héros, Moïse, avait eu le courage d'avancer vers la montagne et puis s'était élevé sur la montagne à la force de ses petites jambes. Et du coup, Moïse se tenait entre l'Éternel et le peuple. C'est lui qui entendait ce que Dieu disait et le transmettait ensuite au peuple. Eux n'avaient rien entendu. Ils devaient obéir, ils devaient suivre, devaient écouter ce que dit Moïse. Et puis quand le peuple avait quelque chose à dire à Dieu, c'est vers Moïse, vers l'Église, qu'ils allaient pour qu'ils le transmettent à Dieu. Mais eux ne pouvaient pas trop prier. Et quand le peuple faisait une bêtise, c'est Moïse qui allait leur sauver la mise en allant supplier Dieu de ne pas les abandonner, cette fois-ci encore. Et donc à ce moment-là, le peuple est comme des bébés finalement. C'est une première étape. Grâce à Moïse, ils entendent quand même quelque chose, ils sont quand même un peu en route, bon an, mal an. Mais Dieu veut aller plus loin avec nous, disent les prophètes. Et c'est ce qui se réalise à la Pentecôte, nous dit ce texte des Actes des Apôtres. Ce qui est neuf en Christ, c'est que nous sommes chacune et chacun ce que Moïse était. L'humanité de la Nouvelle Alliance est un peuple entier de Moïse et de Moïsette. Alors cette claire allusion à Moïse dans le récit de Pentecôte fait en quelques mots, en une image, celle du feu qui est donnée à chacun. Quelque chose d'immense est ainsi dit. Et pour savoir ce qui nous est promis comme pouvoir et comme privilège en Jésus-Christ, il suffit de nous souvenir de cette figure de Moïse, de nous rappeler ces textes. Moïse voyant Dieu face à face, discutant avec lui de philosophie et de théologie comme au buisson ardent, osant se lever malgré ses limites, sa faiblesse, pour sauver son peuple des griffes d'un pharaon tout-puissant, faisant des miracles, permettant des franchissements impossibles, écoutant la parole de Dieu et osant se révolter contre elle, discutant, argument contre argument avec Dieu, aimant, pardonnant, partageant son pouvoir avec les autres, sachant faire preuve d'autorité quand il le faut, tout cela au service de ceux que Dieu lui avait confiés. Alors nous sommes appelés à être ce Moïse, à notre façon, ce prophète immense voyant Dieu face à face. C'est tout cela et mille choses encore qui nous sont dites sur notre dignité à nous en tant que personne et sur notre mission en ce monde. Et cela nous permet de relire autrement finalement les livres de l'Exode, du Nombre, du Deutéronome, qui maintenant ne nous parlent plus seulement d'Adam, Ève, de Moïse, d'Abraham, mais qui nous parlent de ce qui nous est donné en Christ, individuellement. Oui, catéchumène, vous êtes Moïse. Vous êtes même plus grand que Moïse, parce que vous arrivez après lui et qu'en l'étudiant, vous pouvez monter sur les épaules de ce géant. Vous êtes chacune et chacun digne de recevoir l'esprit de feu. Nous ne sommes plus des bébés, comme le disait Sacha, pour que ce soit l'Église qui nous dise encore quoi penser et quoi croire. Nous ne dépendons plus de soi-disant experts pour nous dire quelle est la seule véritable interprétation du texte biblique. Car c'est individuellement que l'Esprit nous est donné, Dieu veut, il cherche, il espère notre propre interprétation de l'Écriture, une interprétation donc subjective, en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, une parole neuve aussi, selon ce que l'Esprit nous donnera. Mais l'image pour parler de cette révélation qui est donnée à Moïse, le Moïse que nous sommes, cette image qui est donnée ici dans ce texte de la Pentecôte est significative. Ils auraient pu prendre l'image de Moïse recevant une table de pierre sur laquelle Dieu a inscrit avec son doigt les 10 paroles. Mais non, c'est un souffle qui nous est donné, nous dit Luc dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire un geste de Dieu qui nous aide à grandir, à évoluer positivement. Une évolution qui fait reculer le chaos qui est en nous, qui nous habite encore un peu. Et c'est une flamme qui nous est donnée par Dieu, nous dit les Actes. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un parchemin avec un ordre de mission, mais c'est une mise en lumière de notre monde, quelque chose qui nous libère, c'est une lucidité, c'est une intelligence plus vive grâce au questionnement qui nous est proposé. C'est une flamme qui nous purifie ce qui est impur en nous, c'est une chaleur qui nous réchauffe notre cœur et qui nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Alors notre Église est-elle, face au chaos du monde, un bunker de croyances sacralisées, valables pour toutes et pour tous, et présentons le monde extérieur comme horrible, comme noir, comme un chaos terrible ? Non. L'Église est plutôt cette chambre haute où nous nous retrouvons un instant seulement. Mais afin que chacune et chacun puisse recevoir l'Esprit, s'apprête à recevoir l'Esprit, laisse en lui un espace pour le recevoir, dans le secret de son cœur, de ses pensées, de ses rêves, et que chacun se puisse ainsi se sentir autorisé et appelé à suivre son propre chemin et apporter quelque chose d'authentiquement neuf à la belle et riche diversité que Dieu espère manifestement. Alors nous sommes partis d'un monde en chaos, est-ce que cette multiplication de Moïse et de Moïsette, cette brisure de l'unité par Dieu lui-même pour créer la diversité des interprétations, des langues et des vocations, des projets. Est-ce que ce n'est pas un nouveau chaos finalement ? Eh bien non, nous promet le récit de Pentecôte. Alors faisons confiance à Dieu. L'Esprit nous crée à son image, c'est-à-dire à la fois libre, mais ayant un profond attachement aux autres, comme Dieu lui-même à chacun de nous. Le projet de Dieu en Christ, c'est la diversité d'être chacun un Moïse, mais c'est aussi une communion. C'est cette paire magique, finalement, de la diversité et de la communion qui permet, qui fait que la communauté ne soit pas un enfermement, mais un véritable intérêt pour l'autre. Une soif, une curiosité d'entendre ce que l'autre a à dire, de l'entendre parler sa propre langue, la sienne, sa foi, sa sensibilité, sa façon de faire de la politique, ses opinions, ses goûts, son talent. L'Esprit, non content de nous donner un souffle neuf, il cherche à nous rendre capables de vivre cette diversité, d'entendre la vérité qui est dans ce que l'autre a d'unique. L'Esprit cherche à nous rendre capables aussi d'aimer, de pardonner, de servir, d'écouter, de dialoguer, de respecter et même de n'être pas d'accord, sans pour autant tuer l'autre. Car cela, tuer l'autre quand il n'est pas d'accord, c'était avant, bien avant Babel. Et maintenant, nous avons passé Babel, nous avons passé encore bien d'autres accomplissements à travers l'histoire de l'Écriture. Nous en sommes à la Pentecôte, l'Esprit accomplissant toutes ces belles promesses de Dieu, toutes ces Écritures en chacun de nous, grâce au Christ de Dieu. Amen. Et les catégories.